Au poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur auposte.fr.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux internautes, bonjour à l'équipe Au Poste. Salut David, si tu nous vois, merci de nous accueillir une nouvelle fois pour cette émission Horizon 21, créée par Afrique 21 et Orient 21. Donc je rappelle, c'est deux médias indépendants, Afrique21.info et Orient21.info, qui traitent de l'Afrique, du Moyen-Orient et des liens historiques et contemporains avec l'Europe nord globale, la France notamment. Nous sommes le 24 mars, il est un peu plus de 8h du matin, on est un petit peu en retard, désolé. Et il y a deux jours, les Français et les Françaises sont allés voter pour le deuxième tour des élections municipales. Et en Seine-Saint-Denis, alors l'un des départements les plus pauvres de France, c'est pas le plus pauvre de France, puisqu'on peut parler du premier en métropole, mais il y a la Réunion qui est un peu au-dessus, mais aussi l'un des plus peuplés et surtout qui compte le plus de Français descendants et descendantes de personnes immigrées, avec 32% d'immigrés et 31,6% de descendants d'immigrés. Là, je reprends les chiffres d'un livre dont on va parler. Et c'est aussi un département où l'abstention est souvent très forte. Alors cette année, l'abstention nationale a atteint quasi 43% et en Seine-Saint-Denis, environ 50%. Donc on reste sur un taux plutôt plus élevé qu'au niveau national. Et c'est dans ce contexte que les chercheuses Marie-Hélène Baquet et Jeanne Desmoulins ont supervisé un ouvrage qui s'appelle « Élus des banlieues populaires aux éditions PUF » que je montre ici. Et donc avec une question au centre de cet ouvrage, genre, origine sociale, origine culturelle, le profil des représentants et représentantes municipaux dans ce département est-il à l'image des citoyens et citoyennes qu'il représente ? La chercheuse Marie-Hélène Baquet est avec nous pour en parler. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour.
Baquet, merci d'être avec nous. Et je suis par ailleurs très heureux d'accueillir à ses côtés Nadia Chaboun, fraîchement élue numéro 2, si je ne me trompe pas, à la Courneuve. Voilà, félicitations.
Bonjour.
Bonjour.
Merci.
Merci d'être là. je me suis un peu perdu dans mes notes. Je disais donc que vous êtes tout juste élu à la Courneuve, Nadia Chaboun. Vous avez rallié en fait la liste d'Ali Djouara. Qui était la liste LFI, c'est ça. Et oui. Vous étiez, alors vous n'êtes pas encarté, mais vous étiez...
Alors pas encarté, mais soutenu par le Parti communiste et de citoyens engagés.
Engagés, ouais. Voilà, c'est ça. Et vous étiez dans la mandature précédente.
Exactement,
déjà,
oui.
Sur la liste, vous occupiez...
Dans la majorité, j'étais quatrième adjointe à la jeunesse et l'emploi insertion.
Voilà, encore une fois, félicitations.
Merci.
Alors justement, on va aborder par rapport au livre de Marie-Hélène Baquet, ça va être important pour les internautes. On va d'abord définir un terme qui est assez important, puisque le thème de l'émission, c'est quand même la représentation. Et donc quand on parle de représentation, on parle aussi d'origine sociale et culturelle. Mmh. Et il y a un terme que Marie-Hélène Baquet, vous utilisez beaucoup dans votre livre, qui est le terme racisé. Et je souhaiterais qu'on revienne sur ce terme dès le début de l'émission, comme ça on a posé les choses, pour que les internautes comprennent bien ce qui il y a derrière ce terme racisé. Marie-Hélène Baquet, est-ce que vous pouvez nous donner une définition de ce terme?
Alors, d'abord, je précise que quand on utilise le terme racisé, c'est bien sûr pas race du point de vue biologique, mais qu'on comprend la race comme une construction sociale, c'est-à-dire c'est un processus d'altérisation, d'essentialisation de personnes qu'on considère comme différentes de par leur nom, de par leurs origines ou présupposées origines, ou de par leur faciès, hein, de par leur couleur, de par leur couleur de peau. Alors, pour nous, ça a été important d'insister là-dessus parce que ça renvoie en fait à des processus de discrimination, de racisme, qui sont bien souvent passés sous silence. Et donc, montrer l'émergence d'élus racisés en politique, c'est aussi montrer que pendant très longtemps, il y a eu une discrimination vis-à-vis de ces élus. Alors, il y a une discussion hein, sur ce terme. Je sais qu'un certain nombre d'élus ou de candidats racisés qu'on a rencontrés n'utilisent pas ce terme parce qu'ils se sentent essentialisés. Hein, ils n'ont pas envie d'être pointés comme étant
Ayant appartenant à une communauté en particulier.
Voilà, ils se considèrent comme français et ils ont bien raison. D'ailleurs, ce que montre notre enquête, hein, c'est que être un élu racisé, ça renvoie à une expérience, hein, qui est une expérience de la discrimination, mais ça renvoie pas ensuite à des comportements particuliers en tant qu'élu ou à la défense d'une communauté. Et ça c'est important. Donc c'est un terme, une catégorie qui est intéressante pour l'analyse, mais ensuite qui ne rend pas compte des politiques qui sont menées par ces élus. Alors il y a d'autres termes qui ont été utilisés en France, notamment le terme de diversité qui avait été notamment utilisé par la droite, hein, mis en avant par Nicolas Sarkozy, puis repris par le Parti Socialiste. Mais quand on utilise diversité, on écrase en fait toute la question des discriminations et toute la dimension politique. Il y a d'autres personnes qui utilisent le terme issu de l'immigration, mais qui me gêne aussi parce que on a le sentiment que quand on est en de la troisième génération issue de l'immigration, on est toujours hors de la société française.
Et on est toujours quelque part un immigré.
Donc c'est en ça que ça me pose problème. Voilà, donc il n'y a pas de terme complètement satisfaisant, mais c'est celui qui me semblait le plus pertinent.
Nadia Chaboun, comment vous inscrivez par rapport à ce terme, justement, par rapport à ce que disait Marie-Hélène Baquet, par rapport au terme diversité, au terme issue de l'immigration, etc.
Oui, moi je rejoins complètement, parce que issu de l'immigration, c'est-à-dire qu'on est toujours, alors que ça fait, enfin moi 43 ans, et dire encore qu'on est issu de l'immigration, c'est ne pas accepter notre intégration, et nous on se considère comme français, même si on a nos origines qu'on n'oublie pas, mais issu de l'immigration, ça nous renvoie aussi, comme je le disais, qu'on soit toujours pas intégré en France, et on nous renvoie toujours aussi à nos origines, et moi je trouve que diversité, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire, diversité? Est-ce qu'on nous renvoie aussi à nos origines, mais aussi peut-être à notre catégorie? Racisé, oui, ça peut être le mot le plus adapté. Certains, oui, voient ça comme du racisme, parce qu'on nous renvoie, entre guillemets, une race, alors que
il y en a. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas au sens biologique.
C'est pas au sens biologique, voilà. Les gens le prennent.
Mais le prennent comme ça, peuvent le prendre comme ça.
Voilà, exactement. Donc moi, je trouve pas que ce soit quelque chose de péjoratif, au contraire. Et puis, je pense que c'est important aussi, quand même, de. Moi, j'aime pas quand on nous met dans des cases, etc. Mais c'est important aussi parce qu'on se bat et faut pas ignorer. Hein, on subit des discriminations. C'est pas en tant que Français d'origine étrangère, mais aussi en tant que femme. Il y a tout ça en fait. Moi, je trouve que c'est bien de le rappeler parce que on réussit quelque part quelque chose parce qu'on arrive. On nous a dit pendant longtemps qu'il fallait s'intégrer. Au moment où on arrive à prendre notre place, on continue à être discriminé. On l'a vu il n'y a pas très longtemps avec.
On parlera, oui, bien sûr.
Le nouveau maire de Saint-Denis. Et moi, je trouve que c'est important quand même de préciser et de montrer le nombre de personnes racisées qui arrivent quand même à, je dis entre guillemets, réussir, parce que ça peut être une réussite pour certains, mais en tout cas qu'on arrive à prendre notre place et à être des citoyens et citoyennes et qu'on participe à la vie politique. Ce qu'on nous demande aussi, en fait, ce qui est étrange, c'est qu'on nous le reproche, mais quand on y arrive, on n'est pas forcément d'accord et on a l'impression qu'il y a un rejet. Moi, quand je vois tous les commentaires dès qu'il y a un nouvel élu qui est racisé, on sait tout de suite de la discrimination, des propos racistes. Moi, je l'ai vu hein, c'était très rarement que je faisais face à ça. Et là, j'ai vu quelques propos qui étaient un peu.
Ce que vous dites, c'est qu'en fait, on parlait tout à l'heure du terme intégration. En fait, souvent, on dit oui, ce sont des personnes qui ne s'intègrent pas.
Oui, et qui ne s'intéressent pas.
Et le jour où ils accèdent à des fonctions, en l'occurrence maire ou les municipaux, qui vont s'investir dans la chose publique, finalement, vous subissez des reproches, en fait.
Exactement, c'est ça, oui. Du coup, on ne sait plus quoi faire. Ouais. On ne sait plus si on doit y aller ou pas. Mais je sais pas comment on peut parler de ça, mais j'ai l'impression qu'on n'aura jamais notre place, quoi qu'il arrive et quoi qu'on fasse. Et donc, on a toujours quelque chose qui ne va pas. Et on nous renvoie toujours à nos origines.
Donc, dans ce sens, les études que font, par exemple, les enquêtes qu'ont fait Marilène Baquet et sa confrère, est-ce que c'est des enquêtes qui sont importantes quand même pour justement montrer des dynamiques, montrer ce genre de... Et puis mettre les mots sur
Oui,
sur
moi, je pense que c'est important parce qu'on a besoin de chiffres, on a besoin de savoir ce qui se passe.
Je rappelle qu'il n'y a pas de statistiques ethniques en France. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. On parlera après de la méthode hein, avec Marilène Baquet, mais du coup, oui, cette...
Oui, moi, je pense que c'est important d'avoir ces analyses sur ce qui se passe et puis voir l'évolution aussi, surtout dans un département comme le nôtre du 93. Moi, je pense que c'est important d'avoir ces analyses et de montrer un peu ce qui se passe et l'évolution qu'il y a au sein de ce département, en tout cas.
Alors justement, Marilène Baquet, je parlais de méthode. Comme ça, on met tout à plat. Pour faire vos statistiques, parce que vous avez étudié de 2014 à 2024...
De 2001.
2001, pardon, ouais. À 2024, si je ne me trompe pas.
À 2026. Enfin, on est en train de juillet 2020.
Ouais, oui, à 2020. Livre, hein,
oui.
Je parle du livre.
Oui, oui. 2020,
et donc, pour pouvoir justement dresser un panorama, ou en tout cas une image un petit peu du nombre de personnes racisées, on va dire, dans les conseils municipaux en Seine-Saint-Denis, vous vous êtes basé sur quoi? Principalement les patronymes, je crois,
oui,
et l'apparence
ça.
Physique aussi
L'apparence physique, c'était plus compliqué. Enfin, on a pu le faire sur les dernières années, ou quand on avait un doute, mais sur les patronymes, nom et prénom. C'est une méthode qui a été utilisée par d'autres sociologues. Alors, avec bien sûr une marge d'erreur, mais nous, ce qui nous intéressait, c'était la progression. Donc, la marge d'erreur est la même, en fait, d'une année à l'autre. Et donc, c'est ce critère-là qu'on a utilisé.
Alors, revenons du coup à l'actualité, les élections municipales de dimanche. J'ai lu, donc je disais juste avant l'émission, dans Le Monde, un sociodémographe qui s'appelle Patrick Simon, qui parle de déblocage. À ce niveau-là, en termes de représentation et représentativité, notamment par les personnes racisées des élections, il a parlé de déblocage en disant qu'il y avait eu une certaine inertie des partis politiques avant, et on en reparlera, mais que ces élections municipales, clairement, ont montré une espèce de déblocage. Est-ce que vous partagez toutes les deux cette analyse, notamment en Seine-Saint-Denis, quelle évolution et quel bilan on peut tirer de ces élections municipales sur cette thématique, justement ? Nadia Chaboun, peut-être, pour commencer.
On peut le voir comme un déblocage parce que, encore une fois, quand on voit ce qui s'est passé en Seine-Saint-Denis ce dimanche, et je pense que, moi, des résultats que j'ai vus à la Courneuve, j'ai l'impression qu'il y avait ce besoin de rupture.
Comment vous voyez ce besoin de rupture, justement ? Qu'est-ce qui...
C'est générationnel. Je pense que c'est vraiment générationnel parce qu'on le voit, là, les jeunes se sont mobilisés pour ces élections et je pense qu'il y a besoin de cette rupture. Et je pense que c'est aussi tous ces jeunes qui, incompris et qui aujourd'hui veulent exister et veulent qu'on les entende, en tout cas qu'on les écoute. Et je pense que ça s'est manifesté ce dimanche. Et donc, moi, je le vois plutôt comme ça. Et c'est pas forcément des jeunes qui sont politisés, qui sont dans un parti politique ou adhèrent à un parti politique. Là, c'était plutôt, je pense, avoir quelqu'un qui peut les représenter, qui leur ressemble. Je pense que c'est vraiment ça qui a fait... qui a joué dans ces élections. On était quand même trois issus du même quartier quasiment. Et je pense que c'est ça qui... D'ailleurs, les résultats ont été serrés. Donc je pense qu'il y avait... C'était important pour aujourd'hui, pour les jeunes, d'avoir quelqu'un. Voilà, la proximité. D'avoir... ça ne veut pas dire que... les autres n'étaient pas proches, mais c'est différent.
Mais...
En fait, ils s'identifient et pour eux, ils ont quelqu'un qui leur ressemble parce que ils ont quasiment c'est quelqu'un avec qui ils ont pu grandir, comme nous, on a pu grandir avec un maire. Ils ont trouvé quelqu'un qui leur ressemblait et c'est plutôt ça. Et je pense pas que ce soit des questions politiques ou autres, même si on sait que. Bon, la France insoumise aujourd'hui joue quand même, dans les quartiers populaires, a une importance et les jeunes s'identifient aussi à...
On reviendra sur les accusations qui sont faites d'ailleurs contre la France insoumise en termes de vote communautaire, enfin tout ce genre de choses, ça sera intéressant d'y revenir. Marilyn Baquet d'ailleurs débunk pas mal de choses en disant qu'il n'y a pas de lien par rapport au vote, hein, souvent, c'est pas du tout une question. Marilyn Baquet, on peut peut-être revenir sur quelques... statistiques entre guillemets, en tout cas celles qu'on a pu, que vous avez pu compiler un petit peu.
Oui, parce que ce qui me semble important, c'est que effectivement on voit arriver donc des candidats et des élus racisés, et donc il y a un cap effectivement qui est franchi. On va avoir 13 maires racisés en Seine-Saint-Denis sur 39 municipalités.
13 sur 39.
Sur 39, voilà. Aux dernières élections, ils étaient 7.
Donc voilà, presque doublé.
Voilà, ça a presque doublé. Mais cette arrivée, elle résulte d'une dynamique qui s'est enclenchée progressivement. Le premier maire racisé, c'était en 2014, Astin. Et depuis 2008, voilà, on voit monter le nombre de candidats et le nombre d'élus très, très progressivement. Donc c'est un mouvement qui était déjà, qui est en cours et qui là, voilà, franchi un cap. Et effectivement, Patrick Simon a raison, franchi un cap qui est un cap important. Donc nous, ce qu'on avait regardé, c'était donc jusqu'à 2020, on ne l'a pas encore fait pour 2026, c'est la part des candidats racisés, la part des élus racisés et la part des élus racisés membres des exécutifs. Et donc on voit une progression, on part de moins de 10% en 2001 à 36% en 2020, voilà. Ça monte crescendo.
C'est une dynamique, en fait.
C'est une dynamique. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas, d'écart entre la proportion des personnes racisées parmi les candidats dans les conseils municipaux et dans les exécutifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre à ce niveau-là. Et donc, c'était important aussi. Le principal filtre, c'était au niveau de l'accès à la fonction de maire. Et on voit que là, ça commence à bouger véritablement.
Par contre, vous soulignez Marilyn Baquet. Et d'ailleurs, ça rejoint aussi la question du genre. C'est que s'il pouvait y avoir des personnes racisées ou des femmes sur les listes, bien souvent, au final, elles n'accédaient pas à des fonctions... importante, c'est-à-dire des fonctions vraiment structurantes ou de la mairie, c'est bien ça. Hein. Et aujourd'hui, ça change aussi.
C'est ça. Déjà, on voit qu'il va y avoir des maires.
Des maires, déjà,
voilà,
bien sûr.
Qu'il va y avoir des maires. Et voilà, je ne sais pas encore comment ça va bouger sur les postes. Donc les postes de pouvoir hein, dans les municipalités, c'est les finances, c'est le personnel, c'est l'urbanisme, auquel accèdent très peu de personnes racisées et de femmes. Et donc, du coup, ça me permet de pointer une autre question. C'est que si on avance sur la question de la représentation des populations racisées, on n'avance pas du tout sur la question de l'accès des femmes aux postes de pouvoir. Il y aura seulement 4 femmes maires en Seine-Saint-Denis à l'issue de ce scrutin. Il y en avait 5 au précédent scrutin en 2020. Et donc là, on voit qu'il y a vraiment un plafond de verre qui reste très, très solide.
Nadia Chaboun, sur cette question justement de genre et d'accession des femmes aux fonctions de maire et même aux fonctions importantes des vous partagez l'analyse de Marilyn.
Oui complètement. On parle de quand on parle de la question de raciser, on voit que ça avance, mais sur la question du genre et de la femme, moi je trouve qu'on a encore beaucoup de travail à faire et que ça bloque. En fait, dans les mentalités, c'est encore je parle après peut-être dans nos quartiers populaires, hein, c'est encore un peu compliqué, difficile de voir une femme aux responsabilités, en responsabilité sur une ville. Moi, je le dis parce que je l'ai entendu. Et c'est une femme, donc ça va être compliqué. On n'a pas forcément les épaules, on n'est pas forcément. Et ça, c'est contrairement aux personnes racisées qui arrivent à accéder à des postes de maire, mais aussi des postes important au sein de l'exécutif en mairie. Je pense que sur la question de la femme, il y a encore énormément de travail à faire. Les mentalités doivent encore changer et il y a un gros travail là-dessus.
Est-ce que en politique, être une femme et être racisée, c'est entre guillemets, j'allais dire, une double peine?
C'est-à-dire oui.
Marilène Baquet le soulignait un petit peu dans son étude, mais du coup, Nadia Chaboun, est-ce que vous sentez aussi...
Oui, complètement. C'est exactement ça, c'est une double peine. Non seulement parce qu'on est femme et on n'est pas forcément capable de pouvoir gérer une mairie, mais en plus de ça, on est racisé, donc il y a toute cette caisse. En fait, c'est cette discrimination, enfin, on subit toutes les discriminations, en tout cas en tant que femme. Un homme qui est racisé, il va être discriminé par son origine. Une femme, ça va être parce qu'elle est femme et parce qu'elle est racisée. Donc,
vous, sur la campagne municipale, ce sont des choses auxquelles vous vous êtes confrontée durant toute la campagne ?
Pas forcément sur la question de racisé ou, enfin, en tout cas d'origine, mais sur la question de la femme, oui. Enfin, j'ai entendu, enfin, on a eu quand même, quand on allait à la rencontre des habitantes et des habitants, il y a vraiment cette question. Moi, j'ai pu entendre. Bah oui, mais c'est une femme, ça va être compliqué. Donc
les arguments?
Il n'y a pas vraiment d'arguments. D'accord. Parce que quand on dit oui,
c'est
mais
pas
et
la
alors,
famille,
alors
ce genre
que
de choses,
ah non, mais pas forcément. Ouais. Mais pourtant, voilà, j'ai des compétences, j'ai de gros bagages, peut-être même plus que certains. Et les gens ont encore du mal dans leur tête à voir une femme. Parce que Marie-Hélène, tu parlais de quatre femmes, mais je ne sais plus qui. Enfin, en tout cas, sur le dernier mandat. Voilà, ce sont quatre femmes issues de la droite et qui sont pas forcément issues des quartiers populaires. Mais dans nos quartiers, aujourd'hui, on a encore un peu de mal. Peut-être c'est parce qu'aussi ce qu'on a mis dans la tête des gens en leur disant que déjà, enfin, quand on est racisé, c'est pas possible. Mais alors encore moins quand on est une femme de pouvoir accéder. Et je pense que quand je dis qu'il y a un travail à faire, c'est que les gens comprennent que oui, en tant que femme, on peut. Enfin, les femmes elles-mêmes, hein, moi, parce que j'ai eu aussi des remarques de femmes, hein, pas uniquement d'hommes, qui disent parce que on leur a tellement fait croire et entendre que ce n'était pas possible en tant que femme. Et puis, ce qu'on peut voir aussi au niveau national, hein,
oui,
c'est pas uniquement propre au quartier populaire.
Non, bien sûr, c'est pas uniquement propre à la Seine-Saint-Denis.
Voilà, exactement. C'est pas propre à la Seine-Saint-Denis. Je pense que c'est plutôt généralisé en France. D'ailleurs, je pense qu'on peut le voir facilement sur les postes. Enfin, que ce soit au niveau en politique ou ailleurs, hein, on a encore un gros travail à faire.
Marie-Hélène Baquet, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, non. Bah, la question de Nadia, en fait, sur les quatre femmes, il y en a deux à droite. Et deux à gauche, à Rosny-sous-Bois, et puis à Tremblay. Voilà.
Okay.
Alors qu'effectivement, dans le précédent mandat, c'était quatre.
Donc là,
une petite évolution. Voilà. Et il y a deux femmes racisées, ce qui est aussi une évolution.
Justement, sur la question droite-gauche, c'était intéressant aussi de rappeler peut-être qu'on trouve aussi des personnes racisées à droite, alors que clairement, moi j'ai regardé quand même un petit peu, c'est plus à gauche qu'on va trouver des fonctions hautes, en tout cas chez les personnes racisées, mais on en trouve quand même à droite.
Oui, on en trouve à droite, et il y avait notamment deux maires de droite qui étaient des maires républicains, donc il y en a un qui est aujourd'hui plus classé républicain, donc voilà, mais on en trouve aussi à droite.
Oui,
qui a quitté le parti, et il y a des divers droites aussi qui sont élus, enfin qui sont des élus racisés, mais quand même voilà, c'est un mouvement qui touche plus la gauche, et surtout voilà, ce que disait Nadia tout à l'heure est très important, c'est qu'on voit arriver une nouvelle génération d'élus qui sont des gens plus jeunes et issus des mouvements associatifs, issus qui sont des militants des quartiers populaires, avec des rapports aux partis politiques voilà, plus ou moins lâches, voilà, certains sont pas du tout encartés. Voilà, comme Nadia, d'autres ont rejoint voilà, plus tard un parti politique comme Ali Diouara, en fait, qui vient du monde associatif. Et cette nouvelle génération qui est vraiment issue des quartiers populaires, il me semble qu'elle change la donne et qu'elle donne aux jeunes de ces quartiers le sentiment qu'ils sont vraiment représentés en politique.
On va regarder, juste il y a deux questions. Une question auxquelles on a répondu au début, hein, l'abstention en 93 et comment par rapport à l'abstention en France aux élections municipales de 2026 et aux autres élections dans les dernières années. Alors moi, je ne sais pas si Marine Baquet, vous avez trouvé des chiffres précis sur la Seine-Saint-Denis, mais je ne crois pas. Moi, j'ai vu autour de 50% sur la Seine-Saint-Denis d'abstention.
Avec des grosses différences.
Mais voilà, des grosses différences en fonction des villes. On ne peut pas vraiment comparer par rapport à 2020 hein, parce qu'il y avait le confinement. Mais ça reste a priori une abstention plutôt haute par rapport au niveau national, même si cette année, au niveau national, ça a été aussi important. Ce que je disais tout à l'heure, au moins 40, 42%, quasiment 43%. Et puis une autre, alors c'est plutôt une remarque de Fabienne Di Martino, qui dit « Les personnes qui s'engagent au municipal sont souvent des retraités, car elles peuvent donner du temps. Il est donc encore, ils ont donc encore mais, les anciens codes du patriarcat. Les hommes de ma commune, je ne sais pas de quelle commune vous êtes, Fabienne Di Martino, se sentent le devoir et les compétences. Les femmes savent qu'elles sont toutes aussi capables, mais ont moins d'égo et sont peu revendicatives, car c'est déjà dur de s'entendre et de faire une liste. Et je crois que c'est plus ou moins la réflexion que vous aviez tout à l'heure.
Exactement, non, mais c'est vrai. Hein, c'est, on va moins aller chercher ces postes-là, parce que c'est pas parce qu'on se dit qu'on n'a pas les compétences, mais parce qu'on n'est pas dans cette à la recherche du pouvoir. On veut faire avancer les choses, mais sans forcément avoir... alors que c'est l'inverse chez les hommes. C'est plutôt cette question de pouvoir qui est importante, compétence ou pas. Hein, et donc c'est peut-être ça aussi qui joue. Moi, j'ai longtemps œuvré dans la ville, et je continue d'ailleurs en tant que... dans le mouvement associatif, et pour moi, c'était pas... à l'approche des élections, je ne me suis pas présentée en disant que je veux être maire. On en a discuté, on me l'a proposé, et par la suite, on se dit, oui, pourquoi pas. Mais on ne va pas le chercher de nous-mêmes. On ne va pas s'imposer en disant, je veux être maire. Et je pense que c'est plus les hommes qui sont dans cette démarche que les femmes, ouais.
D'accord. L'ambition est plutôt, plutôt masculine,
exactement.
C'est ça.
Exactement.
Alors, il y a une question intéressante dans le livre aussi. Alors là, il faut regarder un peu sur le temps long, parce que vous commencez d'abord par rappeler un peu l'histoire politique, l'histoire politique, vite fait, de Seine-Saint-Denis. Et on voit la question sociale, d'abord. Elle est importante, avant même de parler de la question racisée. Vous expliquez, Marine Baquet, que pendant longtemps, la Seine-Saint-Denis était tenue plutôt par le Parti communiste français. Et qu'il y a eu un basculement à un moment donné où ça a basculé dans certaines communes, dans la plupart des communes aussi, vers le PS, et puis un petit peu à droite. Et que là, on observe déjà une éviction... finalement, des catégories sociales. Et vous parlez notamment des ouvriers, bien sûr, principalement, et des employés. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu cette dynamique ? Parce que je pense qu'elle est importante par rapport à la représentativité aussi de nos élus, par rapport à la population.
Oui, ben la Seine-Saint-Denis, donc, et notamment, représente une partie de la banlieue rouge. Hein. Elle est très diverse, mais il y a quand même des villes qui étaient très ouvrières, avec un peuplement lié à l'industrialisation de tout ce territoire, et des municipalités communistes qui étaient conduites et qui représentait d'une certaine façon le monde ouvrier, les classes populaires. Donc avec majoritairement des maires, notamment, qui étaient des maires, qui étaient d'anciens ouvriers. Aujourd'hui, quand on regarde qui sont les maires, on voit qu'il n'y a plus du tout de représentation ouvrière, et y compris dans les conseils municipaux. La représentation donc, des classes populaires, donc là où si on élargit aux employés, reste très faible. Donc on peut dire véritablement qu'il y a une éviction des classes populaires du champ politique. Et je pense que les réactions de jeunes, aujourd'hui notamment, posent aussi cette question-là.
J'avais noté quelques chiffres, du coup, tirés du livre. En gros, en moyenne, c'est 20% d'ouvriers et 30% d'employés dans la population de Seine-Saint-Denis.
Près de 50,
et dans 50%. Les élus, on retrouve donc 1% d'ouvriers, 10% des élus.
En 2020.
10% d'employés, pardon, chez les élus.
Oui, oui, c'est ça. Oui.
En 2020.
En 2020,
oui, alors, c'est 2026, c'est peut-être un peu trop pour savoir.
Ouais,
pour,
mais je pense que ça ne changera pas fondamentalement. Quand on regarde les professions qui sont annoncées sur les... sur les bulletins de vote, enfin, voilà, ça ne changera pas fondamentalement. Et ça, c'est un mouvement qui est un mouvement, qui est un mouvement national. Alors, qui est lié pour partie à la transformation de la population de la Seine-Saint-Denis. Il y a moins d'ouvriers, mais comme vous le dites, il y a encore plus de 50% de classe populaire en Seine-Saint-Denis. Et qui est lié aussi au fait que les partis politiques font peu attention à cette question-là et qu'on a une professionnalisation du champ politique.
Nadia Chabboun, c'est quelque chose. Vous avez grandi à La Courneuve, dans une ville d'ailleurs, dont on dit tout à l'heure, communiste depuis 30 ans. Même avant, le dernier maire est resté 30 ans. Donc, cette question justement de changement de représentation au niveau social, peut-être que vous l'avez moins vécu à La Courneuve, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est quand même quelque chose que vous remarquez dans les listes ou dans, depuis votre engagement politique ?
Oui, oui. En fait, c'est que mon avis. Aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que quand on veut rentrer en politique, c'est pour faire une carrière. Mmh. Alors qu'avant, on avait des militants qui était là vraiment pour défendre des politiques. Et je ne dis pas qu'aujourd'hui, on ne défend pas des politiques, mais j'ai beaucoup plus l'impression qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui veulent rentrer en politique sont plutôt là pour une carrière plutôt que pour...
Donc c'est une professionnalisation.
Professionnalisation, et je suis d'accord avec ça. Ça devient un métier, en fait, d'être maire ou même adjoint aujourd'hui. Il y en a qui veulent en faire un métier.
Voilà, qui veulent en faire un métier.
Et pour vous donner juste un autre chiffre, voilà, ce que j'ai retrouvé. En 1971, il y avait 22 maires communistes en Seine-Saint-Denis. Et sur ces 22 maires communistes, il y avait 15 ouvriers et 2 employés. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'a plus un seul maire, employé, ouvrier. Voilà, ouais.
Est-ce que c'est une question qui reste importante, c'est-à-dire qu'il faudrait... Parce qu'on parlait de LFI tout à l'heure. Alors, LFI, du coup, a fait des efforts sur la question racisée, on l'a vu en Seine-Saint-Denis, en tout cas. Et sur la question, justement, des classes ouvrières, populaires, en tout cas, on a vu à l'Assemblée nationale des gens plutôt issus des milieux populaires. Est-ce que LFI change un peu la donne sur cette question-là ?
Je pense pas, moi, parce que quand on voit un peu la catégorie des députés, par exemple, qui sont, enfin, LFI, j'ai pas l'impression que, je pense qu'on va plutôt vers
pareil, une certaine professionnalisation.
Exactement,
de la politique.
Ouais, j'ai pas vu dans les élus LFI. Des militants
c'est pas une question qui rentre en jeu quand vous avez décidé de vous rallier, parce que je rappelle aux internautes, à un moment donné, pour le deuxième tour, vous avez décidé de rallier plutôt la liste d'Ali Djouhara LFI, du coup, plutôt que la liste PS.
Exactement.
Voilà. Donc c'est pas cette question n'est pas rentrée en jeu.
Non, pas du tout.
Ok.
Et ce que montrait notre étude aussi, c'est que du point de vue social, les élus racisés appartenaient aux mêmes catégories sociales que les autres, que les élus en général. C'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas plus aux classes populaires que les autres élus. Par contre, ce que nous montraient nos entretiens, c'est qu'ils sont issus de ces classes populaires. Habitent dans des quartiers populaires, et donc cette histoire, leur histoire est quand même très importante dans la façon dont ils sont engagés et dans les idées qu'ils défendent.
On va revenir sur les parcours, une partie de votre étude aussi. Je regarde un petit peu il y a Supa Murgeman. L'éviction des classes populaires du champ politique n'est-elle le résultat du néolibéralisme triomphant qui a cassé les dynamiques collectives entre travailleurs qui les politisaient? Bon, ok. Si vous voulez répondre, je vous laisse. Il y avait une autre question, je crois, juste avant, c'était toujours sur la question de l'abstention. Les abstentions aussi fortes posent de vraies questions. Pourquoi? Quel sens a tout ce système thème qu'il est difficile d'appeler démocratie? Quelle légitimité pour les élus? Nadia Chabboun, vous êtes élue malgré une abstention. Il y a eu combien d'abstentions à La Courneuve ou de participation?
Il y a eu 50... sur le deuxième tour, je crois, 45% d'abstention.
D'abstention, ok.
Un peu moins que le premier tour.
Un peu moins que le premier tour. Mais sur la question, justement, de dire la légitimité comment vous vous sentez-vous par rapport à cette abstention?
En fait, il y a réellement un vrai travail à faire auprès de la population, parce qu'aujourd'hui, quand on discute avec les Courneuviennes et Courneuviens, j'ai l'impression que les municipales, c'est pas très important pour eux. Quand on va parler des présidentielles, tout le monde sait ce qu'il y a à faire, comment il faut y aller, il faut voter, parce que c'est ce qu'on entend, on en entend parler, enfin c'est ce qu'on entend parler le plus dans les médias. Mais pour les municipales, les gens pensent que ça fonctionne, qu'il n'y a pas de répercussions, en fait, que ça n'a pas un impact sur le quotidien des habitantes et des habitants. Pour eux, il n'y a pas ce... En fait, je crois qu'il y a une méconnaissance du rôle, en tout cas, de la mairie pour les habitantes et les habitants. Je ne sais pas s'ils font le lien avec le service public et tout ça, mais je crois qu'il y a vraiment un travail à faire auprès de la population sur cette question des municipales et qu'ils comprennent que c'est important pour eux de voter au municipal, parce qu'ils pensent que c'est important de le faire au niveau... D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça donne au niveau des chiffres quand c'est les présidentielles, où je pense qu'il y a peut-être un peu moins d'abstention. Mais en fait, il y a cette incompréhension, en tout cas, de ce que c'est qu'une mairie et du pouvoir qu'elle peut avoir sur la collectivité. Mais je pense qu'il y a un travail, parce que dernièrement, quand on a discuté, pour eux, c'était pas important, c'est pas grave. Enfin, la personne qui passera, de toute façon, ils se rendent pas compte, en fait, des politiques qui peuvent être menées en fonction du parti ou des équipes qui vont porter ces politiques. Et je pense qu'il y a encore, il y a cette incompréhension et qu'il faut expliquer. Et je crois qu'il y a un vrai travail aussi à faire auprès de la population.
Au niveau national, on a une augmentation de l'abstention, je crois même au niveau des présidentielles. Effectivement, je crois que c'est aux législatives, les dernières législatives après la dissolution, où on a eu un pic de participation, mais sinon on est plutôt sur une tendance. Il y a une Fabienne Di Martino qui réintervient, qui dit avant on avait les MJC pour se politiser. On va revenir sur les parcours, je ne sais pas quel est le vôtre, Nadia Chaboun, mais on verra et on dira un peu sur l'enquête. Je voulais y venir sur le parcours. On va revenir un petit peu sur la question de la racisée, justement, qu'on expliquait tout à l'heure. Juste pour terminer, peut-être sur la partie actualité, comment vous avez réagi, Nadia Chaboun, quand il y a eu cette polémique autour du maire de Saint-Denis, quand vous avez vu les réactions sur les médias, les accusations, enfin tout de suite de le ramener finalement à sa condition de personne noire en lui faisant dire des choses qu'il n'avait pas dites.
Exactement. En fait, ça continue. C'est exactement ce qui se passe maintenant depuis pas mal d'années. Et encore une fois, on a un maire qui a été élu au premier tour et la première chose que sortent les médias, c'est on le renvoie à ses origines, alors que voilà, si on n'a pas parlé de son parcours, élu au premier tour avec 59%, si je me trompe plus, un truc, enfin je sais plus exactement. Mais c'est ça veut dire quelque chose. Enfin, je pense qu'on aurait pu parler de ça plutôt que de parler de ses origines. Et quand on arrive à faire 59% au premier tour sur une élection à Saint-Denis, c'est qu'il y a un travail qui a été fait et c'est pas arrivé par hasard. Donc je pense qu'il y avait quand même aussi ce besoin de changement. Et la première chose dont on parle, c'est des origines et de la couleur de peau de Monsieur Bakayoko. Alors que, et je pense que ça va pas changer. Moi, pour moi, on va continuer à mettre en avant, parler de nos origines et du moindre dérapage, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le droit à l'erreur. Quand on est racisé, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. On peut pardonner plein de choses aux autres, mais quand on est racisé, la moindre erreur, le moindre faux pas, c'est...
Ou la moindre parole qui est transformée pour le coup. Voilà, je rappelle aux internautes, Ali Bakayoko intervient sur une chaîne de télé le soir de son élection, il parle de la ville des rois, et puis derrière, c'est transformé en ville des noirs.
Exactement.
Comme quoi, il ne pouvait pas dire roi, enfin, en tant que noir, fallait absolument
On a l'impression qu'il y a un blocage, au niveau du cerveau, dès qu'on a une personne racisée, ça peut pas être autre chose que négatif, en tout cas. Ça peut pas être positif. On peut pas parler positivement des personnes racisées. C'est ça qui est triste aujourd'hui.
Et le pire, c'est que ces propos qui sont transformés sont repris largement par les médias.
Sans vérification.
C'est normal qu'ils parlent de la ville noire.
C'est ça que je trouve grave aujourd'hui. Et j'ai pas l'impression que ça va aller en s'améliorant. Et quand on dit qu'on doit en faire 10 fois plus que les autres, c'est vraiment le cas.
Alors, j'expliquais tout à l'heure, on discutait avec Marilène Baquet juste avant l'émission. Patrick Simon dit dans son intervention dans Le Monde, enfin en fait c'était un papier de l'AFP, je me rattrape, mais qui a été repris par Le Monde, explique que cette visibilité plus importante des personnes racisées, mais pas qu'en politique, c'est-à-dire de manière générale dans la société française, et lui voit en parallèle une réaction qui pourrait expliquer aussi une montée du RN. Je crois on disait avec Marilyn Baquet qu'il n'y a pas, on peut pas, enfin il n'y a pas d'études à ma connaissance qui le lit vraiment, mais c'est un petit peu le constat que vous faisiez.
Oui,
il
y a pas, c'est difficile à montrer parce que on est dans une période où il y a quand même une montée du racisme et un racisme décomplexé. Voilà, qui s'exprime et qui est quand même frappant et très inquiétant, donc qui est lié avec la montée de l'extrême droite, mais aussi avec le poids de certains médias, avec des stratégies politiciennes aussi qui ont permis de la droite classique, voire quelquefois d'une partie de la gauche, qui ont parmi cette montée de l'extrême droite. Et on peut effectivement, en même temps, voilà, pour moi c'est aussi une hypothèse que l'arrivée de populations racisées dans des postes de pouvoir, que ce soit dans le monde du travail ou dans la politique, réveille des formes de racisme, une histoire coloniale qui a pas été digérée et qui reste à travailler en France, qui est vraiment une question importante qui est occultée. Et donc effectivement cette idée qu'il y a une réaction me semble une hypothèse tout à fait intéressante.
Donc à surveiller.
À surveiller.
Nadia Chabouine, vous partagez un petit peu ce vous pensez que c'est quelque chose qui se justifie
pourtant à la Courneuve on a pu entendre parfois entre deux noirs et une arabe on choisit qui.
OK.
Donc c'est, moi je pense que oui c'est dur.
Non oui j'imagine.
Mais non c'est, je pense que la montée du RN c'est aussi ça. Hein,
c'est une réaction en fait.
C'est une réaction.
Une crispation. Exactement. Et derrière une réaction. Ouais. Alors justement vous parliez de la question décoloniale etc. Dans le parcours des personnes que vous avez interrogées pour votre enquête, j'ai noté un certain nombre de choses parce que c'est réparti un peu dans le livre. Déjà, vous parlez du rôle de l'école. Je vous cite, vous parlez de la démocratisation scolaire en milieu populaire, qui a joué un rôle sur le temps long. Vous parlez beaucoup du milieu associatif. Et là, on peut pas s'empêcher de dire quand même que les villes PC avaient quand même un fort investissement en fait dans le côté associatif. Quelques points importants dans l'histoire. Alors, j'ai mis la marche pour l'égalité contre le racisme de 83 qui a pu politiser un petit peu les personnes, mais aussi les révoltes de 2005. Qui sont venus, Et puis, parmi aussi les choses que vous suggère, en tout cas les personnes que vous avez enquêtées, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Nadia Chabouine, vous faites partie des personnes qui sont intervenues dans le livre, enfin qui ont été interrogées. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je me rattrape. Donc, la sensibilité anticoloniale, souvent dans l'histoire familiale, qui va peut-être jouer un rôle. Et puis, le fait d'avoir appris aussi l'engagement et la solidarité dans une famille précaire. J'ai une citation, alors je ne sais plus de qui elle est, donc je m'excuse, mais
c'est anonymisé.
J'ai été bénévole de ma famille toute ma vie. J'ai trouvé ça intéressant comme citation. Et puis, les preuves face à la discrimination, dont vous parlez encore aujourd'hui. Est-ce que j'en oublie déjà, Marie-Hélène Baquet, dans les grandes traits. Nadia Chabouine, est-ce que vous reconnaissez, vous, dans ce parcours? Que vous étiez encore investi dans l'associatif, ça coche la case. Est-ce que la sensibilité justement sur les luttes anticoloniales, c'est quelque chose qui vous a marqué aussi? Le côté aussi, d'être le bénévole de sa famille, enfin, tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui a marqué, qui vous a un peu construit politiquement?
Moi je pense que c'est... On pense pas, enfin, on sait pas qu'on fait de la politique, mais on nous dit qu'en étant militant associatif, on fait de la politique sans le savoir. Et je pense que ça vient de là, sans forcément se dire qu'on va avoir peut-être une carrière dans la politique, mais moi je pense ça se fait naturellement en fait. C'est une suite logique de notre engagement et de ce qu'on fait. Quand on parlait de, enfin tu parles de bénévoles de la famille, c'est vrai en fait. C'est il y a toujours quelqu'un qui est là pour accompagner, aider la famille, parce que voilà, quand on est issu de l'immigration, on n'a pas forcément toutes les connaissances qu'il faut pour certaines démarches. Et c'est vrai qu'on... Mais
et d'ailleurs, Hélène Baquet, pardon, Nadia, justement, on va voir si c'est ça aussi. C'est qu'à travers le fait d'être bénévole de la famille, c'est aussi se confronter, par exemple, à l'administration française,
oui, oui.
Ce genre de choses. Et donc, du coup, ça donne une espèce d'envie de changer un peu les choses.
Exactement, parce que... Enfin, on ne va pas raconter tout, à quoi on fait face quand on a des parents qui arrivent et qui ne savent pas forcément... qui ne parlent pas forcément bien français. Et quand on voit l'administration en face, qui parfois ne fait pas d'efforts, je ne généralise pas parce que c'est... et on se dit, mais ce n'est pas normal que...
On n'est pas en train de mettre l'opprobre sur les fonctionnaires.
Non, pas du tout. Mais c'est vrai que parfois... mais c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas non plus formés à recevoir aussi parfois. Mais on se dit qu'on a un rôle à jouer et qu'il faut que ça change. Et si on s'investit, on s'engage aussi dans le mouvement associatif, c'est pour ça aussi. On le fait sans forcément réfléchir. C'est naturel, en fait. On le fait naturellement. Et une chose entraîne une autre. Et on arrive... Moi, il y a quelques années, j'aurais jamais pensé être candidate à la mairie de la Courneuve. Il y a encore quelques années en arrière, encore moins être adjointe. Donc ça s'est fait naturellement. Et puis,
est-ce qu'on est venu vous chercher ou est-ce que c'est vous qui êtes...
Non, on est venu me chercher.
Parce que c'est une des choses que vous relevez dans votre enquête, c'est que parfois, assez souvent, les partis viennent chercher finalement dans les associations.
Oui, c'est ça. Et notamment les femmes arrivent plus en politique comme ça. C'est-à-dire qu'elles sont sollicitées, mais il n'y a pas que les femmes. Hein. Voilà, il y a notamment une série de responsables associatifs parce qu'ils représentent leur quartier, parce qu'ils ont un poids dans leur quartier. Alors après, ça se fait de façon différente. Ça peut se faire dans certains cas de façon très clientéliste. Et on a un certain nombre de récits d'élus qui, quand ils arrivent en conseil municipal, se sentent complètement instrumentalisés, n'ont aucun pouvoir. Mmh. Ça peut se faire dans une volonté vraiment de travailler avec la société civile de façon plus large et de former aussi une nouvelle génération d'élus. Dans certains cas, je pense que c'est un peu le...
Donc c'est ce que vous, on est venu vous chercher, Nadia Chabouin.
Oui, exactement. Moi, c'est le troisième mandat, je parle de 2020, où on est venu me chercher, parce qu'on était venu me chercher juste les mandats précédents et je ne me sentais pas prête de rentrer en politique ou en tout cas d'avoir un rôle au sein de la mairie, mais parce que j'étais vraiment bien engagée au niveau associatif et pour moi c'était déjà un rôle très important. Après, par la suite, oui, on se dit pourquoi pas être au cœur des décisions aussi, quand on voit un peu... À la Courneuve, on a quand même... cette chance au niveau associatif d'être soutenu, et on a un tissu associatif qui est important. Et du coup, après pour moi, ça a été une suite logique, mais si on ne vient pas me chercher, je n'y vais pas.
Voilà. Ok.
Pour moi, c'est être au service des Courneuviennes et Courneuviens via le tissu associatif, le milieu associatif. C'est un peu la même chose quoi, pour moi.
Justement, Marianne Baquet, dans votre étude, et vous l'avez abordé juste avant, il y a quand même eu pas mal de déceptions dans les parcours, et notamment l'impression d'avoir été instrumentalisé, vous l'avez utilisé ce terme, ou un autre terme que vous utilisez, je crois, dans votre ouvrage, c'est de servir de courroie de transmission entre justement les quartiers. Et la mairie est donc finalement servir de faire valoir et de voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti, Nadia Chabouin, vous dans votre engagement au départ au niveau politique, je parle. Est-ce que vous pensez que ça change aussi ça?
Alors moi, à aucun moment j'ai pensé qu'on s'est servi de moi. Au contraire, je pense qu'il y avait ce besoin On connaît pas, quand on est proche de la population, je pense qu'on peut apporter au sein de la mairie. Et puis, il y a des incompréhensions, des choses qu'on ne comprend pas forcément. Et je pense que notre expérience du terrain peut apporter, en tout cas, beaucoup au sein de la mairie. Et je pense que c'est... Moi, je l'ai vécu comme ça, je l'ai ressenti comme ça. Et c'est comme ça que j'ai vécu mon mandat. C'était plutôt... apporter quelque chose, des choses que d'autres ne comprennent peut-être pas. Quand on habite les quartiers populaires, quand on est sur le terrain, il y a des choses... et je pense que c'est plutôt comme ça. Moi, je ne l'ai jamais vu comme se servir de nous pour au sein de la mairie, mais moi, je l'ai vu plutôt pour apporter quelque chose et essayer de comprendre les Courneuviennes et Courneuviens et le travail qu'on fait aussi sur le terrain.
Est-ce que cette question d'instrumentalisation, mais attention, la question qui fâche, n'est pas plus à droite que la gauche, puisque vous citez notamment une expérience d'une liste citoyenne, je crois, qui avait rallié une liste de droite et qui, au final, ça s'est très mal passé parce que les faits, après, dans la politique de la ville, finalement, ils s'y retrouvaient pas.
C'était plus en accord.
Ouais, c'était plus en accord.
Alors, c'était pas une liste citoyenne, c'est le cas du Blanc-Ménil, hein, où des responsables associatifs qui n'arrivaient pas, qui se trouvaient quand même face à un plafond et qui n'arrivaient pas à rentrer en politique avec une municipalité communiste. À un moment donné, effectivement, on fait l'alliance avec la droite de façon informelle. Et c'est aussi le cas à Bobigny, hein, où de la même façon, un collectif de quartier et avec d'autres associations a contribué à porter une liste de droite aux élections. Et on peut dire que l'UDI, notamment, s'est beaucoup appuyé là-dessus, et avec effectivement ensuite des grandes déceptions de la part d'un certain nombre d'élus ou de gens qui avaient soutenu un changement politique. Mais l'instrumentalisation, elle existe aussi quand même à gauche, hein, dans certains partis. Il ne faut pas non plus la nier.
Justement, on parlait des partis politiques. C'est intéressant d'en parler, puisque certains de vos enquêtes, enfin des personnes que vous avez interrogées, et même on en voit d'autres au niveau national, ont tenté finalement une carrière au sein du parti. Et vous dites, et ça sera rejoint les propos de Patrick Simon dans Le Monde hier, dans l'AFP, qui dit qu'il y a une certaine... Enfin, pendant longtemps, il y a une inertie au sein des partis, une espèce de plafond de verre, et que bien souvent, il y a un blocage, c'est-à-dire que l'ascension au sein du parti est un peu bloquée. Nadia Chaboun, vous n'êtes pas encartée, vous n'avez jamais été encartée, donc c'est pas quelque chose que vous avez vécu, mais est-ce que vous avez été tentée à un moment donné d'essayer d'intégrer un parti politique classique, alors que ce soit le Parti communiste ou peut-être un autre parti ?
Non, vraiment pas. En fait, c'est jamais je me suis posé cette question d'intégrer un parti politique parce que j'ai jamais eu cette envie et puis je voulais garder cette liberté de penser ce que j'avais, enfin de pas forcément suivre une ligne directive d'un parti politique et je me suis jamais posé cette question et aujourd'hui encore j'ai pas envie de rejoindre un parti. Je pense qu'on peut partager des valeurs et sans forcément adhérer à un parti politique. Et quand on adhère à un parti politique, aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que c'est parce qu'on partage les mêmes valeurs ou est-ce que c'est parce qu'on a envie d'intégrer pour évoluer, pour une carrière ou autre ? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Je ne sais pas, en fait, aujourd'hui...
Est-ce que ce n'est pas pour une carrière nationale ? C'est ce que vous soulignez dans dans votre livre. C'est qu'on pense... on peut penser au maire de Saint-Ouen, par exemple, Karim Ouambran, PS... Donc, oui. Et qui lui, clairement, des ambitions nationales. Est-ce que être sans parti, ça empêche aussi une carrière nationale ?
Je pense. Hein. Enfin, je suis pas une spécialiste de la politique, mais je le vois bien aujourd'hui. Je pense que. Et puis, moi, j'ai pu le voir sur ces derniers temps. Hein, parti politique dans des négociations, c'est important. Et je pense que oui, il faut. Moi, j'ai compris qu'il fallait adhérer à un parti politique pour faire carrière et évoluer
si on performer au niveau performer, politique voilà, national. Marine Baquet, vous partagez ce...
Oui, tout à fait. Je pense que, et d'ailleurs, on le voit dans les trajectoires de certains élus qui, à un moment donné, rejoignent un parti politique parce qu'ils veulent poursuivre leur carrière ou parce que c'est compliqué même d'être maire et de s'imposer dans le champ politique, même au niveau communautaire, par exemple, quand on n'appartient pas à un parti politique. Donc là, les partis politiques restent encore prégnants. Mais ce qu'on montre quand même dans l'ouvrage et ce que confirment ces élections, c'est qu'on a de plus en plus de parcours où on se rapproche, on s'éloigne des partis politiques avec ce qu'on appelle du trouble en politique, en fait. Et quand on regarde, par exemple, les résultats des élections, c'est beaucoup plus difficile à analyser parce qu'on a de moins en moins de listes qui sont portées par un parti. Donc, et de plus en plus de listes dites citoyennes ou diverses, où on a donc des gens qui ont des parcours qui sont pas directement liés à une histoire dans un parti politique.
La question de la liste citoyenne, par exemple, en fait, vous étiez soutenu par le PC, mais c'était une liste citoyenne que vous portiez.
C'est ça, exactement.
Portiez,
en majorité citoyenne.
Qu'on peut rappeler, c'est quoi une liste citoyenne, peut-être pour nos internautes, parce que
une liste citoyenne, c'est des citoyennes et des citoyens qui sont engagés sur la ville et
pas encartés
et qui veulent quand même participer à la vie.
Pas forcément des militants de la société civile, ça peut
non
être,
pas forcément, okay. Pas forcément et non, moi j'ai pas ce que je disais, j'ai rien contre le Parti communiste, on peut partager les mêmes valeurs. C'est juste que j'avais pas envie d'être encarté et d'appartenir à un parti.
J'avais une question, je veux pas la rater. Pour vous deux, quelle serait selon les invités l'importance de l'éducation populaire dans l'éducation à la citoyenneté? Est-ce que vous avez un avis sur cette question?
Je crois
qu'on peut revenir sur éducation populaire, éducation à la citoyenneté. Qu'est-ce que
L'éducation populaire, voilà, c'est toutes l'éducation, notamment dans les associations diverses qui structurent la vie sociale dans les quartiers populaires et ailleurs. Et je pense que l'éducation populaire a joué et joue encore un vrai rôle dans la formation politique, dans la politisation des jeunes. Je crois que les jeunes élus qu'on voit arriver, ce sont des élus qui ont été politisés bien souvent par le biais de l'éducation populaire. Et donc, c'est quelque chose d'essentiel. Dans une autre enquête qu'on avait faite avec des jeunes, une recherche participative, on voyait bien le rôle de ces militants associatifs, de ces éducateurs, de ces animateurs, qui ont un rôle très, très important dans la socialisation politique des jeunes.
Mais c'est pas nouveau, ça date d'il y a d'assez longtemps, la question des associations sur le terrain. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ces militants associatifs décident d'investir le champ politique, en fait? Est-ce qu'il y a un moment particulier? Est-ce que c'est une question de génération? On a pas mal parlé de la question générationnelle. Nadia, peut-être Chaboun.
Comme tu veux.
Oui, moi je pense que c'est générationnel et quand je me suis engagée, j'avais pas forcément ça en tête de m'engager, mais je suis d'accord que l'éducation populaire joue un rôle important. Mais je pense que c'est générationnel vraiment, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt on ose y aller, alors qu'il y a quelques années c'était pas trop ça. On voyait encore ça comme quelque chose d'important.
Illégitime.
Illégitime, voilà, exactement.
La question de la légitimité.
Aujourd'hui, on se sent beaucoup plus légitime à participer, en tout cas, à la vie de la ville. Et je pense que c'est ça. Et c'est générationnel. Je pense vraiment que c'est générationnel.
Et c'est aussi que les partis politiques, pendant longtemps, n'ont pas laissé de place à des jeunes racisés qui avaient grandi dans les quartiers populaires. Il y avait un ouvrage d'Olivier Masclé qui s'appelle « La gauche et les cités, un rendez-vous manqué » qui montrait bien ça à partir de l'exemple de Gennevilliers. Et donc, comme ils n'arrivaient pas à trouver de place, ils ont trouvé d'autres voies pour se faire entendre, notamment par des listes citoyennes. Et donc, ils bousculent en ce sens les partis politiques.
Merci beaucoup. Alors, on va revenir justement sur cette question, puisqu'on est reparti sur la question racisée. vouloir être au-dessus du marquage identitaire. C'est-à-dire, en fait, comme vous disiez, Marianne Baquet, et d'ailleurs Nadia Chabounis, vous le dites aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on est français d'abord, et on veut pas, on en a marre quand même qu'on nous ramène à notre origine, on va dire, culturelle, pour dire les choses. Est-ce que ça suffit, en fait, de le dire pour déjouer les accusations, notamment de communautarisme, parce que c'est une question qui est revenue pas mal dans le bouquin, où dès qu'il y a, en fait, c'est jamais le bon choix, c'est-à-dire que une personne racisée qui va construire, qui va financer ou construire une mosquée, on va l'accuser d'être commune. Et puis à l'inverse, si elle refuse de construire la mosquée, il y a une partie de la population qui lui dira mais c'est la trahison, etc. Donc comment se positionner quand même, ça suffit pas finalement de dire je suis pour tous les citoyens, toutes les citoyennes de ma ville. Comment trouver cet équilibre et comment s'imposer finalement comme étant juste élu?
C'est vrai que c'est difficile, hein, parce que moi je prends l'exemple de la Courneuve, c'est une ville multiculturelle, hein, on a plus de 103 nationalités, et c'est vrai que si on se positionne, enfin l'exemple que vous donniez de la mosquée, si on se positionne là-dessus, ça va être tout de suite du communautarisme. Alors que c'est pas forcément le cas
de votre origine.
De notre origine, alors que c'est, on va faire abstraction de toutes les autres décisions qu'on a prises, d'ailleurs pour d'autres, que ça peut être pour d'autres communautés, mais pour tous les Courneuviens et Courneuviennes, et on va se focaliser sur la seule décision qui va nous renvoyer à nos origines. Et donc ça, c'est, je pense que c'est quelque chose qui est difficile, et je sais pas comment on peut se détacher. Enfin, montrer qu'on est là pour tout le monde et pas seulement pour... Parce que c'est facile, hein, ce que je disais, enfin, quand on est racisé, on va vous pointer du doigt. Il suffit qu'aujourd'hui, je ne sais pas moi, si je vais à une fête organisée dans le cadre du Maghreb, on va tout de suite dire oui, mais c'est communautaire, alors qu'à côté, on a pu participer à d'autres événements plutôt multiculturels. Mais c'est comme ça, dès qu'on va nous voir... on l'a vu, hein, je pense, là, dans le cadre des élections, des élus qui participaient à des événements. Voilà, on les a tout de suite
accusés
de favoriser une communauté alors que d'autres. Mais c'est. Et je ne sais pas comment on peut se sortir de ça, et je pense que c'est difficile de satisfaire tout le monde. Et
oui, puis il y a quelque chose aussi, parce que on voit ces accusations contre notamment LFI, hein, de soi-disant instrumentaliser des thématiques qui seraient censées séduire plus une certaine population, etc. Mm-hmm. En fait, c'est comme si aussi on pourrait à l'inverse se poser la question, mais dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas parler des choses qui intéressent ces populations, et on est toujours coincé avec ça.
Oui, on sera. Mais je pense qu'on sera toujours coincé avec ça, parce que d'autres utilisent autre chose, mais. C'est je pense qu'on nous renverra toujours à nos origines dans les décisions qu'on prendra. Je le répète, c'est difficile en fait de faire en sorte qu'on nous renvoie pas à cette image.
Marianne Baquet.
Oui, et par ailleurs, ce qu'avaient notamment montré les travaux de Michel et Pinson et Monique Pinson-Charlot, hein, sur la grande bourgeoisie, c'est que les pratiques les plus communautaristes, là pour le coup, les plus fermées, sont des pratiques dans les quartiers bourgeois, des classes supérieures et de la haute bourgeoisie qui est en général blanche et qui défend ses intérêts. Et dans ce cas-là, personne ne parle de communautarisme.
Effectivement, c'est ce que vous expliquez aussi dans votre livre. Mais, et c'est ce qu'on rappelle, mais comme vous dites, il y a quand même encore, c'est peut-être le prochain plafond de verre à essayer de casser. Et on revient sur cette question de légitimité. C'est-à-dire que quelque part, vous-même, vous ne vous sentiez pas légitime, ou les générations précédentes ne se sentaient pas légitimes d'investir le champ politique. Aujourd'hui, on vous renvoie aussi à une certaine illégitimité de représenter tous les citoyens, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines ou quelles que soient...
Non mais c'est vrai, hein, on peut le voir aussi sur les élections, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui jouent sur les communautés, et il faut... on a l'impression qu'à chaque fois, il faut quelqu'un d'une communauté pour pouvoir représenter la communauté, alors qu'on n'est pas forcément... c'est pas forcément le cas, on peut représenter toutes les communautés sans forcément être d'origine. Donc, et c'est ça qui est difficile à faire comprendre aussi, parfois.
Est-ce que, Marianne Baquet, aussi dans le livre, vous dites Et à l'inverse, il y a aussi une pression des quartiers populaires sur les élus qui leur ressemblent, j'ai envie de dire, à l'inverse. Donc en fait, il y a aussi cette pression qui existe.
Oui, oui, bien sûr. Quand on nous en demandera plus. Et c'est vrai qu'il y a cette pression de on doit être présent et on doit être là pour la communauté parce que voilà, on représente cette communauté. En fait, c'est pour ça que je dis c'est vraiment difficile quand on est racisé de. Après, quand on est racisé ou pas, enfin, je pense que c'est. Quand on ne l'est pas, on a aussi cette pression de comment on représente tout le monde sans forcément. Mais je pense que la question, elle se pose pour tout le monde. Je pense que peu importe.
Je ne sais pas si on va essentialiser quelqu'un qui n'est pas racisé, en fait. Parce qu'on...
Ceux qui sont... je ne sais pas comment expliquer ça.
On a une scientifique à côté qui pourra peut-être mettre les mots.
Non, mais c'est parce que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un fond dans beaucoup de municipalités de pratiques clientélistes. Voilà, qui existent et qui sont...
Au niveau du fonctionnement même, en fait.
Voilà, dans un certain nombre de municipalités et certains élus qui ont utilisé du clientélisme communautaire. Et en général, d'ailleurs, ces élus ne sont pas les élus racisés. Voilà, mais on a ces pratiques-là qui existent. Et effectivement, on va pointer du doigt les élus racisés en disant, eux, forcément, ils vont avoir des pratiques communautaristes et voilà et donc là on trouve en fait c'est un vieux fond raciste hein, d'essentialisation de ces élus et on peut dire que les élus racisés comme les autres ils doivent faire face à des demandes et quelquefois à des années de pratiques qui les ont précédées qui sont des pratiques clientélistes et puis par ailleurs il faut bien dire que le maire ou la maire dans une ville, c'est la personne à qui on va adresser le plus de demandes, le plus de requêtes, qui est l'interlocuteur principal.
On va arriver au terme de cette émission. Vous avez répondu à beaucoup de questions. Je vous remercie beaucoup. Nada Chaboun, comment vous voyez ? Alors là, je crois que l'équipe municipale se met en place.
Samedi.
Voilà. Comment vous voyez la suite des choses suite à cette victoire et suite à cette tout ce dont on vient de dire en fait.
Ça va être. Je sais pas comment ça va se passer, mais je pense que pour moi, on a réussi pendant toutes ces années à travailler tous ensemble sans forcément avoir. Enfin, même si on avait des divergences au niveau des partis politiques, etc. Et je pense que ça va continuer. Moi, je pense que on va pouvoir travailler tous ensemble et porter nos politiques. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'on est là pour les Courneuviennes et Courneuviens. On veut faire ce travail en commun. On est là pour l'intérêt des Courneuviennes et Courneuviennes. Et pour moi, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et je pense qu'on pourra continuer ce travail et puis permettre à ceux qui vont arriver de réaliser un peu ce que c'est que le travail au sein d'une municipalité, mais d'être aussi au service des Courneuviennes et Courneuviens en dehors du milieu associatif. Je reste plutôt positive pour la suite et je pense que ça peut fonctionner.
Et vous n'avez pas peur d'être à un moment donné récupéré aussi par les partis politiques ? Enfin, vous allez avoir un peu de pression peut-être, non ?
Alors là, actuellement, non, pas du tout. J'ai pas cette pression et j'ai pas cette peur. Donc, honnêtement, si je dois rejoindre un parti politique, c'est parce que j'ai envie et pas forcément parce que pour faire carrière pour la suite, j'ai aucun problème avec ça. Donc, non, j'ai pas cette pression ni cette peur d'ailleurs.
Merci Nada Chaboun. Marie-Hélène Baquet, pour conclure, peut-être sur toute cette séquence qu'on vient de vivre, et vous disiez que vous continuiez à regarder et à enquêter. Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'avenir, du coup, en tout cas ce qu'on constate et peut-être l'avenir.
Déjà, j'ai trouvé assez extraordinaire l'élection de maire racisé et la dynamique qui l'a accompagnée. J'étais dimanche soir à La Courneuve et il y avait une foule dans la salle et il y avait une dynamique et beaucoup d'émotions qui traversaient la salle. Donc voilà, je pense que c'est...
Vous liez cette émotion au fait fête de la représentation, c'est-à-dire de...
on arrive à la mairie, et je pense que c'était la même chose à Saint-Denis. Je pense qu'au Blanc-Mesnil, ça a dû être aussi quelque chose d'assez d'assez extraordinaire. Donc voilà, c'est une étape importante qui marque la vie politique en Seine-Saint-Denis. Ensuite,
il y a les présidentielles.
Voilà, il y a les présidentielles, mais du point de vue local, l'arrivée de ces jeunes élus qui souvent n'ont pas de parti politique derrière eux, donc quelquefois qui sont assez isolés, amène aussi à réfléchir à la façon dont ils vont s'organiser, dont ils vont se former. C'est un vrai challenge, mais je crois que c'est important qu'ils soient là, et j'espère qu'ils vont relever le défi.
J'ai eu presque des frissons en entendant parler de tout ça, en espérant qu'il y ait une grande dynamique. Ça nous fait penser à New York, quand New York ont élu Mme Dany, et tout le monde a dit enfin un îlot de résistance.
Ouais.
Est-ce que vous, pardon pour cette dernière question, Nadia Chaboun, est-ce que vous inscrivez aussi un peu dans cet îlot de résistance par rapport à un débat national très très polarisé, et avec cette montée de l'extrême droite qui inquiète beaucoup, beaucoup de monde?
Oui, en fait, c'est aller dans la continuité et continuer à se battre contre cette montée de l'extrême droite. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut la combattre, c'est en prenant notre place. Et bien sûr que ça va peut-être faire augmenter.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, apparemment.
Mais
je pense qu'à
un moment donné, si on continue ce travail-là, je pense que ça va être difficile, mais moi j'y crois, et je pense que si on se bat encore, on peut y arriver. Enfin, on pourra montrer que. Voilà, et c'est pas parce qu'on est racisé que forcément on va avoir des politiques qui vont aller à l'encontre de ce que peut porter la France et la République. Donc, parce qu'on nous voit comme racisés, forcément anti-République ou anti-France ou anti... mais c'est pas vrai. C'est l'image qu'on veut nous donner. Et puis,
parti anti-France. Alors ça, c'est directement lié à l'époque coloniale. Faudrait le rappeler. Les gens, ils voient la définition.
Donc, mais je pense que si on continue ce travail, on pourra bousculer dans quelques années, inverser la tendance.
Vous allez être scruté.
Ah oui, c'est sûr.
Sur tout ce que vous faites et toutes vos décisions et vos propos.
Exactement, oui. Ouais, ouais. C'est ça, je pense qu'on n'y échappera pas. Mais on a l'habitude, en fait, j'ai envie de dire, parce que c'est...
Vous vivez avec ça.
On vit avec ça. Donc, chaque prise de parole, chaque décision, il faut penser à ce qui pourrait être dit par la suite ou interprété, en tout cas. Donc, on doit faire attention à tout.
Ok, merci à toutes les deux d'être venues. J'étais vraiment ravi de vous accueillir au poste. Merci encore au poste de nous accueillir. Je rappelle Orient 21, Afrique 21, orient21.info. Alors, j'ai eu une question tout à l'heure. Effectivement, 21, c'est XXI, c'est en chiffres romains. Voilà, et Afrique 21.info, les deux seuls médias indépendants qui parlent de Moyen-Orient et d'Afrique. Aujourd'hui, et je rappelle le livre, donc Marie-Hélène Baquet, Jeanne Desmoulins, mais avec d'autres qui ont participé, je ne les cite pas tous. Donc,
un collectif de femmes.
Et que des femmes, c'est vrai, j'ai pas relevé. Mais non, parce que c'est normal, c'est pour ça que je ne l'ai pas relevé. élu, on l'a pas féminisé. Hein.
On avait demandé que ça soit féminisé.
Mais ça ne l'a pas été, alors que le livre est écrit de manière inclusive. Élu des banlieues populaires aux éditions PUF, qui est sorti, je crois, fin d'année dernière ou...
En février.
Non, en février, ouais. Voilà. Donc tout, voilà, que j'ai déjà beaucoup abîmé. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil, c'est très intéressant. Nadia Chaboun encore, merci beaucoup. Merci. Marie-Hélène Baquet, merci beaucoup. Merci au poste, merci David. Désolé pour le petit retard ce matin. Et à très bientôt, à dans un mois pour une prochaine émission d'Horizon 21. J'ai pas encore la thématique à vous donner, mais ce sera probablement animé par Sarah Grira d'Orient 21. À très bientôt, ciao.
Abonnez-vous, les amis, c'est David Dufresne. Abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique, c'est pas toujours ça. C'est artisanal, on est entre nous. C'est au poste, auposte.fr.
Attention, oui. Ça va être dans le clip.
Postez-vous l'abonnement. Non, abonnez-vous au poste.
J'encourage, faites un don à au poste. Ah non, c'est là la caméra.
Adonnez-vous au poste. Adonnez-vous au poste.
Et faites des dons à au poste. J'espère que tout le monde dans le chat, que tout le monde ici fait des dons à au poste. Il faut donner
des
l'argent
dons,
pour que ça existe.
Amis du café, amis de la police, adonnez-vous au poste.fr.
Abonnez-vous.
On vous remercie tous pour vos dons, c'est cool.
Désarmer le récit, c'est important. Ça passe par quoi? Ça passe par muscler les médias indépendants. Voilà, soutenir Au Poste.
Abonnez-vous.
Donnez plein d'argent.
Il a raison, abonnez-vous à Au Poste et à Mediapart, aux deux.
Abonnez-vous.
N'oubliez pas, on a besoin de dons et de donateurs. Merci beaucoup.
Auposte.fr, il n'y a pas mieux.
Ah, on se moque de moi là. Bompard soutient Au Poste, mais devant la mauvaise caméra. Celle-là, elle est bonne ou pas? Faites un don à Au Poste. Il ne faut pas que ça soit qui reste. Donc je disais, pardon, il faut bien que vous provoquiez du débat, il faut provoquer du sujet. Pour provoquer du sujet, il faut créer de la conflictualité.
Mais comment je vais rester indépendant si Bompard, il demande aux gens de faire un don?
Oh, ouais, c'est vrai ça.
Tout ça n'existe que grâce à vous, parce qu'on est indépendant et on ne vit que grâce aux dons. Donc voilà, merci.
Et abonnez-vous.
Et abonnez-vous.
Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr.
Bravo. Bravo. Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr.